Alors, on va vous parler de éduquer l'amour à l'œuvre. Alors, on a prévu une introduction comme dans tout topo, mais pour changer, on a prévu une introduction à l'introduction. Alors, qui n'était pas tellement prévue, mais je me lance. Hier soir, à la chapelle de la Visitation, je rentre, je vois un garçon avec un sweat, et sur son sweat, il était marqué « Il est l'heure d'aimer ». Cette phrase, je l'ai méditée un long moment pendant l'adoration, et je trouve qu'elle correspond bien à ce qu'on a vécu cette semaine. Elle correspond bien à ce qu'on a vécu cette semaine parce que s'il est l'heure d'aimer, ça veut dire aussi qu'il est l'heure de donner. Et pour renvoyer au premier enseignement de Francis Manoukian, pour se donner, il faut être persuadé que ce qu'on va donner est bien. Et pour se donner soi-même, il faut donc être bien persuadé que nous sommes des cadeaux. Et je trouve que le fait d'avoir commencé cette session par un enseignement sur l'importance du fait que nous devons être persuadés que nous sommes tous des cadeaux, trouve un lien dans le topo sur l'éducation. Parce que si nous sommes tous des cadeaux, c'est aussi parce que sur notre chemin, sur notre route, dans notre vie, nous avons rencontré des éducateurs. Ça pouvait être nos parents, nos grands-parents, un prof, un prêtre, peu importe. Mais nous avons rencontré des éducateurs qui nous ont aidés à nous mettre sur le chemin, qui nous ont aidés à nous mettre en chemin. Nous sommes souvent frappés, quand nous relisons la vie de Jean-Paul II, par l'importance du père de Jean-Paul II dans sa vocation de prêtre. C'est bien en voyant prier son papa à genoux, devant Marie, que Jean-Paul II a eu sa vocation. Alors n'hésitons pas, dans les heures qui viennent, dans la journée, à rendre grâce et à louer pour tous les éducateurs qui ont été mis sur notre route. Et puis parfois, on n'a pas forcément souvenir d'un éducateur qui nous a marqués. Ben, n'hésitons pas à louer pour l'éducateur suprême, pour le Père qui nous aime. Les deux versets que nous allons travailler plus tôt ce matin sont dans Saint Jean, chapitre 15, versets 8 et 9. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples. Comme je vous ai aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en mon amour. Ces deux versets nous disent quelque chose de l'éducation. Parce que l'éducation est une mission à la gloire du Père, appelée à porter beaucoup de fruits. Parce que l'éducation est une œuvre d'amour qui prend modèle sur la relation du Père au Fils et qui prend source en l'Esprit-Saint. Nous avons également reçu comme un cadeau de pouvoir parler de ce sujet dans un lieu où l'adoration a une telle importance. Comme dans l'adoration, la première chose que fait le Père, c'est d'être là présent et de nous aimer. Or, peut-on éduquer sans être profondément présent et sans aimer? Comme dans l'adoration, face au Père, nous nous révélons à nous-mêmes. De même, l'éducateur, dans l'acte d'éduquer, permet à l'enfant de se révéler à lui-même. Oui, il y a un lien entre l'adoration et l'éducation. Combien y a-t-il d'éducateurs parmi nous? Il y en a trop. Ça va, il y en a un peu plus maintenant. Alors, je vais dire qui pour moi est éducateur, puis vous allez tous lever la main. Alors, que ce soit en tant que parent, en tant que grand-parent, en tant qu'oncle, tante, frère, grand-frère, très grand-frère plutôt, voisin, voisine, ami, ami IES, nous sommes tous des éducateurs. Combien parmi vous n'ont jamais croisé d'enfant ? Alors, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais croisé d'enfant, parce qu'il y en avait sur le podium il y a 5 minutes. Tous ceux qui ont déjà croisé un enfant sont éducateurs. Comme le dit un proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. L'adulte, parce qu'il est adulte, qu'il le veuille ou non, est éducateur. Certains seront appelés à en faire plus dans la mission d'éducation, en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants. Mais nous sommes tous éducateurs. Comment alors éduquer, que ce soit dans notre famille, dans le quotidien ou dans notre métier, en gardant à l'esprit le modèle de la relation entre le Père et le Fils, en incarnant cette belle mission. Tout d'abord, nous verrons qu'éduquer, c'est éduquer toute la personne. Puis, qu'éduquer n'est possible que par la rencontre entre deux personnes, l'éducateur et l'enfant ou l'élève. Enfin, nous verrons que les éducateurs doivent être d'authentiques témoins, ce sur quoi insiste Benoît XVI. Pour vous parler aujourd'hui, nous nous sommes appuyés sur la lettre de Benoît XVI aux éducateurs, une lettre du 8 décembre 2011, ainsi que sur le livre de Marguerite Léna, « L'éducation selon l'esprit », et sur celui de Éric de Rus, « L'art d'éduquer selon Edichstein ». Ces deux livres sont en vente à la librairie. Marguerite Léna est consacrée dans la communauté apostolique Saint-François-Xavier. Elle est philosophe et spécialiste des questions éducatives.
Alors, tout d'abord, nous allons nous appuyer sur cette définition de l'éducation que donne Benoît XVI. Pour Benoît XVI, éduquer consiste à conduire hors de soi pour introduire à la réalité, vers une plénitude qui fait grandir la personne. Quelle est cette réalité vers laquelle nous allons conduire l'enfant ? Cette réalité, c'est le Christ. Le véritable but d'une éducation chrétienne, ce n'est pas d'inculquer à l'enfant des valeurs humanistes, mais c'est de lui permettre de rencontrer le Christ. Pour autant, l'éducateur ne va pas s'adresser qu'à la part spirituelle de l'être. Un éducateur ne fera pas que de la catéchèse. Le modèle accompli de l'humanité, nous serons tous d'accord, nous sommes tous d'accord pour dire que c'est le Christ. Par l'incarnation, notre humanité a reçu la grâce d'être assumée par Dieu lui-même. C'est donc la nature humaine dans sa totalité, corps, esprit et âme, que nous allons éduquer. Alors, je vais balayer rapidement ces trois domaines à éduquer, le corps, l'esprit et l'âme. Ça va vous servir de petit matelas pour comprendre la suite du topo. Pour parler de l'éducation du corps, je parlerai de cette citation de Jean-Paul II. Le corps, et seulement lui, est capable de rendre visible ce qui est invisible, le spirituel et le divin. Il a été créé pour transférer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et en être le signe visible. Aujourd'hui, il faut bien reconnaître que nous avons tendance à dissocier le corps et l'esprit dans l'éducation. Or, il convient de permettre le développement de toutes les facultés de l'être, y compris celles qui vont passer par un travail manuel ou par un développement créatif ou par un effort sportif. Éduquer, ce sera dans ce cas-là apprendre à connaître son corps, ses possibilités et ses limites. Je pourrais vous parler de cette jeune fille de 6e qui vivait très mal sa relation à son corps et qui a trouvé au sein du collège une occasion de se dépasser. Il y avait une option arts martiaux dans le collège et elle a mis très très longtemps à réaliser l'exercice suivant qui était de pouvoir sauter par-dessus une chaise. Et finalement, au bout de cette option, quand elle a réussi à sauter par-dessus la chaise, ça a été vraiment pour elle une vraie réconciliation avec son corps. Alors bon, il ne s'agit pas de faire sauter tous les enfants par-dessus une chaise, mais simplement de comprendre que la confiance en soi, ça passe aussi par la confiance dans notre corps. Et je dirais même que cela va plus loin. Ce n'est pas seulement un esprit sain dans un corps sain. Le corps lui-même est capable d'une attitude spirituelle. Vous savez que chez les Hébreux, il n'y a pas de mot pour dire le corps tout seul. Il y a un mot qui veut dire le corps animé, c'est-à-dire le corps avec l'esprit. Ce mot-là, c'est « bassar ». Et c'est vraiment notre civilisation actuelle qui dissocie les deux. En réalité, ils sont appelés à ne faire qu'un. Et c'est ce qui est développé dans les méthodes telles que la méthode Vitose ou les sciences cognitives proposées par la Garandrie, par exemple. Et c'est ce que nous avons vu aussi à l'instant sur le podium avec la rythmocatéchèse. Il y a une façon pour le corps d'accueillir la parole et de la mémoriser. Il y a une façon pour le corps de recevoir la parole de Dieu. Je poursuivrai avec l'éducation de l'esprit en partant d'une citation de Sainte Edith Stein. Éduquer, c'est à la fois apporter aux élèves des jugements vrais, des perceptions claires et des concepts corrects. C'est aussi former leur entendement de telle manière qu'ils soient capables d'atteindre par eux-mêmes des perceptions claires, des concepts corrects et des jugements vrais. Vous voyez, il y a vraiment ces deux choses à développer dans l'esprit. Transmettre la connaissance et en même temps former l'entendement. Alors ça, c'est vraiment très vrai pour les enseignants, mais c'est aussi très vrai pour les parents. À la maison, la moindre discussion peut être l'occasion d'apporter des éléments nouveaux et aussi d'apprendre à l'enfant à exercer son propre jugement, à développer son discernement. Dans ce domaine, on ne peut rien négliger. Il faut quand même prendre conscience que nous avons une lourde responsabilité. Car nous ne pouvons pas négliger que ce sont nos paroles d'éducateurs qui vont construire le monde intérieur de l'enfant. Hélène Lubienska, qui était une grande éducatrice, dit que l'éducateur ne peut certes donner la grâce, mais il peut l'entraver. S'il néglige d'enseigner les attitudes extérieures qui expriment et aident à produire les attitudes intérieures requises, la grâce trouvera plus difficilement accès aux âmes de ses élèves. Alors pour l'enseignant, évidemment, cela implique une double exigence, celle de maîtriser parfaitement sa matière et celle aussi de savoir comment, à travers son enseignement, il pourra construire l'intelligence et ouvrir les portes de l'âme. Enfin, éduquer l'âme consiste évidemment la partie la plus précieuse et la plus difficile. C'est là que se joue la réalisation de la personne, puisque c'est là que se trouve, que se crée notre relation intime avec Dieu. Edith Stein parle du petit grain d'or présent en chaque enfant. Ce grain d'or, c'est à nous d'apprendre à l'enfant à le découvrir. Formé, l'âme devient ce lieu le plus profond où se prennent les décisions. D'où la nécessité d'accompagner la formation de l'intériorité de l'enfant. Éduquer l'âme passera par une éducation au silence, à la contemplation. Un enfant capable de remarquer la beauté d'un paysage ou un enfant capable d'être en silence a un vrai temps d'avance. Une de nos amies professeurs de philosophie emmenait tous les ans ses élèves de terminale en retraite chez des moines. Et elle nous parlait de la frayeur, elle a vraiment employé ce mot de frayeur, de ses élèves à l'idée d'être en silence pendant 2 jours. Vraiment, c'est quelque chose qui peut s'éduquer dès le plus jeune âge. Être en silence, c'est un cadeau que nous faisons à nos enfants. Sans compter que le silence ouvre la voie de la prière, mais aussi ouvre la voie simplement de la parole. C'est dans un vrai silence que peut naître une vraie parole.
Pour bienheureuse Mère Teresa, pour devenir saint, il nous faut l'humilité et la prière. Et nous n'arriverons ni à l'un ni à l'autre sans le silence. Les jeunes peuvent avoir conscience, l'intuition de la nécessité du silence. Une élève de troisième un jour me disait combien elle souffrait du manque de silence chez elle, qui pour elle était lié à un manque de disponibilité de ses parents. Son papa venait la chercher au collège, aussitôt rentré dans la voiture, il mettait la musique, ou France Info, pub. Le soir, il dînait devant la télévision, et elle n'avait pas de lieu finalement où elle pouvait échanger, parler et approfondir des choses avec ses parents. Alors oui, vraiment, demandons-nous, quand sommes-nous en silence ? Quand laissons-nous des temps de silence ?
À la fin de cette partie, nous aimerions vraiment avec vous rendre grâce pour cette humanité que le Seigneur a sanctifiée en s'incarnant. Vraiment, il a sanctifié toute notre humanité en s'incarnant. Et en plus, il nous a donné la liberté de la sanctifier à notre tour par l'éducation.
C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort tu m'as sauvé.
Alors après avoir vu qu'il fallait éduquer toute la personne, nous allons voir que l'éducation, c'est la rencontre de deux libertés. Nous avons la possibilité, la liberté de sanctifier notre humanité les uns par les autres. Cela est possible par la rencontre entre deux libertés, la liberté de l'éducateur et la liberté de l'enfant. Tout d'abord, nous allons voir la liberté de l'enfant. La liberté de l'enfant qui est liée à la disponibilité de l'enfant. En effet, l'éducation part d'abord d'une attention à l'être qu'il faut faire grandir. Car en effet, ce que nous avons entre nos mains, au tout début, à la naissance, dans nos classes, en septembre, c'est un être inachevé. Un être inachevé, c'est-à-dire un être qui ne sait pas encore donner. Et il va falloir lui apprendre à donner. Lui apprendre à donner jusqu'à être capable de se donner lui-même. Car c'est cela la finalité de l'éducation, se donner à l'amour de Jésus, se donner à l'amour des autres. Mais d'abord, l'enfant ne peut que recevoir. Imaginez un monde sans éducateur, un monde d'enfants perpétuels. D'ailleurs, il y a quelque chose de paradoxal. L'enfant est un être inachevé, qui parfois se montre tyrannique, qui donne peu, et pourtant le Christ, Jésus, nous demande de redevenir petit enfant. Pourquoi ? L'enfant est appelé à devenir adulte, et l'adulte devrait prendre modèle sur l'enfant. Pourquoi ? Un adulte dont on dit qu'il est resté enfant, on ne peut pas dire qu'on le complimente. Alors pourquoi Jésus nous demande-t-il de redevenir petit enfant ? Tout simplement parce que l'enfant est un pauvre, un véritable pauvre. Il n'a rien qui lui appartienne. Selon la belle expression de Marguerite Léna, l'enfant, c'est l'homme en faiblesse et en promesse. Elle poursuit, toute naissance est démunie, et c'est pourquoi toute naissance est un appel. Oui, c'est un appel à recevoir. Les jeunes ont besoin d'être éduqués. Prenons bien conscience de cet appel, de ce besoin de l'enfant. Et l'enfant, quel que soit son comportement, quel que soit parfois son degré d'incivilité, est un pauvre. Et nous devons l'éduquer. Cette année, j'étais dans mon bureau en train de travailler avec ma secrétaire. Mon bureau est voisin du secrétariat. Donc on travaillait, on était concentrés. Et on entend un bruit un peu de ce type-là. Alors on bouge pas. On bouge toujours pas parce qu'on était concentrés. Et d'un seul coup, on entend s'exclamer « J'ai pas que ça à faire, moi !» Alors, je suis sorti, je pensais trouver, je sais pas moi, le postier, enfin j'ai rien contre les postiers, mais je pensais trouver quelqu'un qui était vraiment pressé. Et en fait, je tombe sur un élève de 6e. Alors, d'abord, je lui ai dit ce que j'en pensais. Je vais pas vous dire ce que je lui ai dit. Mais qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que là, nous avons affaire à un manque d'éducation ou à une éducation inachevée. Mais ça montre bien le besoin d'éducation. Et ces appels à l'éducation, ces besoins d'éducation, on en voit partout, tout le temps. Soit on se contente d'un constat négatif, et on dit « ils sont vraiment nuls, ces jeunes », soit on se dit « eh bien, qu'est-ce qu'on fait ?» Nous, adultes, nous devons tenir notre rôle d'adultes debout et répondre à ce besoin et répondre à cet appel à l'éducation. De même, il nous faut être très vigilants avec les propos que nous tenons parfois sur les enfants. Attention à nos propos qui enferment. Lors des conseils de classe, il m'arrive d'entendre des enseignants dire « un tel, c'est un fainéant » ou « un tel, il n'y arrivera jamais ». Parfois aussi, lors des nombreux rendez-vous d'inscription que je fais avec chaque enfant qui rentre au collège, je reçois l'enfant et la famille, et je peux vous dire que j'entends parfois des horreurs. Un petit florilège. Il est nul en maths. L'enfant est tout le temps présent, hein, et c'est les parents qui parlent. Il est nul en maths. Il est nul en maths. C'est souvent les maths. Hein. Il est comme moi, il est nul en maths. Donc c'est foutu alors. C'est pour... Parfois, il y a pire. Hein. Il est nul, mais alors par contre, son frère, il est vraiment intelligent. J'ai déjà entendu ça, hein, il n'est pas intelligent. Alors, nos propos d'adultes peuvent non seulement être blessants, mais aussi enfermants. L'enfant est un être inachevé, un être en construction, un être en devenir. Nos propos ne peuvent pas enfermer. L'enfant a vraiment besoin d'apprendre, de recevoir. Nos jeunes aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, ont soif d'amour, de cohérence et de vérité. Et l'éducateur doit vraiment garder à l'esprit que l'enfant est un être inachevé. Et si le Christ nous appelle à redevenir petit enfant, c'est pour nous mettre à la portée de l'enfant, qui est un être inachevé, qui est la porte d'entrée du royaume, comme Jésus lui-même se rend disponible dans l'adoration. Accorder une attention particulière à l'enfant, c'est accorder une attention particulière à Jésus. Qui dans les évangiles sont les favoris de Jésus? Les malades, les éclopés et les enfants. Ce que nous avons fait au plus petit d'entre les hommes, c'est à Jésus que nous l'avons fait. Jésus est là dans l'hostie, dans les enfants qui nous sont confiés. En allant plus loin, et particulièrement à la fin de cette session, on remarquera avec Marguerite Lénard que le Christ, je cite, « lui-même se donne à rencontrer directement dans l'enfant, et cela en son identité la plus profonde, celle de fils qui ne fait rien de lui-même, mais manifeste en tout le Père. » L'enfant, contemplé avec les yeux de la foi, nous introduit ainsi dans l'intimité filiale de Jésus. Dans ce mystère de dépendance et d'accueil, dans ce consentement de vie et de paix qui est sa présence au Père et la présence en lui du Père. On mesure alors combien il est grave de mépriser ou blesser l'enfance et combien tout ce qui y touche, en particulier l'éducation, appelle l'estime et le respect et mérite qu'on y consacre, comme à un haut privilège, le meilleur de soi-même. Dans l'œuvre d'éducation, il est donc nécessaire de réaliser que l'enfant est un être inachevé qui a besoin d'éducation. Il faut aussi réaliser que l'éducateur doit se mettre au niveau de la disponibilité de l'enfant et que pour cela, il doit être disposé à se donner lui-même, se donner à une personne. L'éducateur s'adresse à une personne comme Jésus lui-même s'adresse à chacun personnellement dans l'adoration. Après avoir vu la liberté et la disponibilité de l'éducation, de l'enfant ou de l'élève, passons à la liberté de l'éducateur. Marguerite Lénard nous dit « Il en est de l'éducation comme du don de la vie. D'abord, une œuvre d'amour. Cette œuvre d'amour n'est possible que sur un fond de confiance. Il faut risquer le présent. Ce don d'amour est exigeant. Il est d'abord exigeant pour les parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant. Ils portent donc la responsabilité la plus lourde. L'éducation est ce débordement d'amour qui donne confiance. L'éducation n'est pas une crispation, n'est pas une possession, ce n'est pas mon enfant. Parents, ayez confiance en ce que vous savez de votre enfant. »
Alors aujourd'hui, comme on vous l'a dit tout à l'heure, je suis donc professeure de français, mais il y a quelques années, ma maîtresse de CP n'aurait pas juré de mes talents littéraires. Elle avait pris rendez-vous avec ma mère pour lui dire que j'étais vraiment trop lente et que j'étais trop lente non seulement pour apprendre à lire, mais aussi pour apprendre à compter. Et en fait, cela, je l'ai appris vraiment très tard. Je ne l'ai pas su au moment de mon CP. Et je l'ai appris très tard quand ma mère m'en a parlé au détour d'une conversation. Et en fait, quand je l'ai appris, cette lenteur avait finalement disparu. Alors, bon, je sais toujours pas compter, mais déjà je sais lire. Et
elle sait pas sa gauche et sa droite.
En tout cas.
Je crois que t'es pas la seule à pas savoir ta droite et ta gauche.
En fait, le fait d'ignorer cette lenteur, d'ignorer que j'étais sans doute un petit peu en difficulté en CP, je pense que j'ai été protégée en cela par ma mère qui avait une confiance absolue en mes capacités. Et bon, finalement, elle avait quand même raison. Et je crois vraiment que le bain d'amour et de confiance que des parents peuvent donner à leur enfant est vraiment plus précieux que tout. Et ce bain d'amour et de confiance peut aussi être donné par des éducateurs. c'est vraiment la première chose à donner à des enfants, qu'ils aient confiance en eux. J'ai entendu aussi ce petit exemple à la radio, une radio que je ne citerai pas, mais dont je salue les auditeurs. Un petit garçon qui venait vers sa maman et qui lui disait « Maman, tu es la deuxième personne que j'aime le plus au monde. » Alors sa maman, bien sûr, était flattée, mais quand même un peu surprise. Alors elle lui demande qui est la première. Et l'enfant, tout naturellement, lui répond « La première, mais c'est moi. » Alors vraiment, cette maman peut être fière d'elle. Elle a donné à son enfant une juste appréciation de lui-même. Vraiment un capital confiance qui est indispensable pour grandir.
Cette confiance des parents est basée non pas sur l'enfant roi ou sur une surappréciation des qualités de son enfant, mais sur le seul critère valable. Mon enfant est aimé de Dieu comme un trésor ineffable. Et quand on est les premiers éducateurs, les parents, cela veut dire que nous sommes le premier vecteur de cet amour divin pour lui. Il est donc exigeant pour les parents d'éduquer, c'est aussi exigeant pour les éducateurs. Ceux-ci, les éducateurs, doivent être en recherche permanente pour s'adapter au mieux au profil particulier des enfants qui leur sont confiés, aux enfants d'aujourd'hui qui leur sont confiés. Un élève de 5e cette année fait de la phobie scolaire. Elle était en 5e, l'année dernière elle était déjà en 5e dans un autre collège, elle n'y était pas allée une seule fois de l'année. Et donc on l'a acceptée en 5e de nouveau, et elle venait pas au collège. Donc mon adjointe est allée prendre le petit déjeuner chez elle pour essayer d'accrocher avec elle, de trouver la clé de cet enfant. Ça n'a pas marché. On a mis en place un parcours dérogatoire en lien avec l'inspection académique. On a essayé de la faire venir au collège pour un cours ou deux par semaine. Et puis petit à petit, on a travaillé aussi avec un pédopsychiatre. Et petit à petit, la petite est revenue. Et à la fin de l'année, elle acceptait de nouveau de revenir en classe. Et a priori, en septembre, elle devrait être à 100% en classe. Tout ça pour vous dire que les éducateurs donnent d'eux-mêmes, doivent donner d'eux-mêmes pour essayer de trouver la clé de chaque enfant. Pour cela, les éducateurs, et nous tous d'ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur la richesse de la pédagogie chrétienne. Il y a plein de belles choses qui existent. Le Père Fort, par exemple. Mais éduquer, c'est exigeant parce que l'éducateur a lui aussi mission de donner confiance à l'enfant. D'où la nécessité de porter un regard positif sur l'enfant. Parfois même en dépit de ce que peuvent penser certains parents de leur propre enfant. Il faut qu'il y ait une complémentarité entre le regard des parents et le regard de l'enfant, des éducateurs, pardon. Une complémentarité entre le regard des parents et le regard des éducateurs. L'école doit être un lieu de confiance mutuelle, d'un partenariat possible, souhaitable, entre les parents et les éducateurs. Et tous, éducateurs, parents, nous devons ne pas nous demander si tel ou tel enfant est intelligent, mais demandons-nous comment cet enfant est intelligent. Comment cet enfant est intelligent. S'il y a la nécessité de la rencontre entre deux libertés, celle de l'éducateur et celle de l'enfant, c'est parce que l'un se met au niveau de l'autre. Et c'est toujours à l'adulte de se mettre au niveau de l'enfant. Marguerite Léna nous dit que éduquer n'est pas dresser, mais s'adresser à. Toute éducation se fait sur fond de parole et de liberté. Et cela, parfois, peut nous amener à être édifiés par le comportement, par les mots de nos enfants. Dans le témoignage que nous avons entendu hier soir, j'ai été frappé de voir que c'est l'aîné de la... Je ne sais pas si vous vous souvenez, la famille qui était venue ici, ceux pour qui la poste a tout changé. J'ai été frappé de voir que c'est leur fille aînée qui, en priant, a permis un nouveau chemin. Nos enfants sont vraiment capables de nous surprendre aussi, mais c'est à nous, adultes, de nous mettre au niveau de l'enfant. Nous mettre au niveau de l'enfant, c'est accepter de nous déposséder de nos habitudes, de nos images gratifiantes. On sait plus de choses qu'eux, n'en tirons pas gloire. L'éducation est une œuvre d'amour et d'humilité. Parfois, nous devons descendre de notre piédestal.
Une amie nous racontait qu'elle avait beaucoup appris de son père, qui le soir, à la prière, demandait parfois pardon à ses enfants parce qu'ils s'étaient mis en colère injustement. Cette image du père qui demande pardon, ou pour Jean-Paul II, cette image du père qui prie à genoux, est vraiment formatrice pour l'enfant.
Cependant, il arrive que certains enfants soient fermés à la parole éducative dans un contexte donné, à un moment donné. Et si l'exigence invite l'éducateur à se mettre au niveau de l'enfant, parfois, la sanction peut être la voie à suivre. Ainsi, au collège, il nous arrive d'exclure un élève. La bienveillance et la confiance que nous avons dans les enfants n'empêchent pas la conviction qu'il est parfois nécessaire de prendre des mesures fortes. Oui, l'éducation est une œuvre d'amour, mais d'amour dans la vérité. Le psaume 85, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». La sanction est parfois la seule ouverture possible. La rencontre des deux libertés se fait donc sur le terrain de l'enfant, pour faire grandir l'enfant. Ce qui est exigeant pour l'enfant aussi. Mais c'est à l'éducateur de s'adapter, de renouveler sa façon d'aborder l'enfant qui est en face de lui. Il n'y a pas de recette toute faite. Un éducateur n'est pas un garagiste qui a une vidange à faire. Il doit trouver sa manière propre. Certes, il y a des méthodes, et il y a de très bonnes méthodes dans l'apprentissage. Mais c'est à chaque éducateur de trouver la méthode qui lui correspond le mieux. À nous de faire preuve d'humilité. À nous, dans la pauvreté et l'abandon, la possibilité de trouver la voie de l'enfance. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les matins trouver un petit truc ou un petit tour de magie. Mais ça veut dire qu'il faut s'adapter avec souplesse à la personne qui nous est confiée. Et cette souplesse n'est rien moins que la souplesse de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint est notre meilleur allié en matière d'éducation. Jésus a enseigné par les enfants. Selon sainte Thérèse de Lisieux, l'enfant est un révélateur théologal, c'est-à-dire que sa pauvreté et sa petitesse nous conduisent, nous, à la pauvreté. Nous, ces éducateurs, nous pouvons deviner Dieu dans la petitesse des enfants. Alors, on peut se demander si ces deux métiers, enseignant, mère de famille, qui sont deux métiers qui souffrent parfois d'un manque de reconnaissance, on peut se demander s'il n'y a pas un sens théologal à ce manque de reconnaissance. Cette attention à ce qu'il y a de plus petit et de faible, ce travail sans aucun résultat visible, parfois pendant des années, cette absence de rentabilité, cette absence de solution toute faite, tout cela, c'est l'essence même de l'éducation. Et ceux qui en font profession professent donc l'opposé de la philosophie matérialiste dans laquelle nous baignons, et qui est en fait une philosophie de l'impatience. Le contraire de l'éducation, qui est un ministère de la durée.
La liberté de Dieu, la liberté du Père, vient parachever la liberté de l'adulte et de l'enfant. En fait, elle précède même la liberté de l'enfant et de l'éducateur. Car Dieu a voulu nous associer à son œuvre de création en nous laissant éduquer la génération suivante. Ça aurait pu être bien plus simple pour lui de ne pas créer de génération. Il prenait moins de risques, à mon avis. Mais il a voulu prendre ce risque. Il a voulu nous donner cette liberté d'éduquer, nous aussi, nos enfants, de les attirer à lui. Alors, c'est encore Edith Stein que je vais citer. Edith Stein nous dit, alors que les autres activités s'arrêtent aux facultés humaines, l'éducation pénètre jusqu'à l'âme même, à sa substance, pour lui donner une forme nouvelle et par là, recréer l'homme dans sa totalité. Elle ajoute, l'éducation est un art dont le matériau n'est ni le bois, ni la pierre, mais l'âme humaine. Il faut bien que nous prenions conscience de cela. Quand nous éduquons, nous participons à l'œuvre de création du Père. Nous coopérons avec lui. Et c'est lui qui nous a demandé cela.
Alors, en dernière partie, nous allons voir que les éducateurs se doivent être d'authentiques témoins. Et tout d'abord, oui, l'éducateur est un témoin avant d'être un docteur. Benoît XVI nous dit que l'œuvre d'éducation demande la responsabilité du disciple, qui doit être ouvert pour se laisser guider vers la connaissance de la réalité, et celle de l'éducateur, qui doit être disposé à se donner lui-même. Plus que jamais, sont nécessaires pour cela d'authentiques témoins, et non pas de simples dispensateurs de règles et d'informations. Des témoins qui sachent voir plus loin que les autres, parce que leur vie embrasse des espaces plus vastes. Le témoin est celui qui vit en premier le chemin qu'il propose. Il nous faut donc faire le don de notre présence aux jeunes qui nous sont confiés. Benoît XVI nous dit encore, « La présence des parents est un des biens les plus précieux, une présence qui permet un partage toujours plus approfondi du chemin afin de pouvoir transmettre l'expérience et les certitudes acquises avec les années qui ne peuvent se communiquer que grâce au temps passé ensemble. » Alors oui, demandons-nous, « Seigneur, comment suis-je présent ?» Comment sommes-nous présents à nos enfants? Cette question va de pair avec le sens que nous donnons à notre vie. Elle équivaut à se demander, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que nous fassions ?» Pour moi, cette question s'est posée de manière très claire, très forte, à un moment charnière de ma vie. J'exerçais un métier où j'étais absent 8 à 9 mois par an, et j'étais absent à la naissance d'Isée, notre seconde fille. Pour Juliane et moi, c'était l'événement inenvisageable, le truc le pire. Or, 2 ans après, rebelote. Je pars le 9 juin, Maximilien né le 18 juin. À ce moment-là, j'avais déjà pris la décision de changer de métier, parce que je n'arrivais pas à être à la fois mari, papa, tout en continuant à exercer de manière profonde mon métier. J'ai donc démissionné et été pendant 1 an en congé parental, j'étais papa au foyer. Donc je conduisais les enfants à l'école, j'étendais les lessives, je préparais un petit peu le repas. Le tout en préparant le concours d'enseignant. Et ce changement de statut n'a pas été facile. Mais cette réorientation a permis de répondre à ma double vocation, ma vocation familiale et ma vocation professionnelle. Pour les éducateurs, il convient aussi de se demander comment suis-je présent à ces jeunes qui me sont confiés, à chaque jeune qui m'est confié? Être des témoins auprès de ceux que nous éduquons est un rôle à assumer. C'est exigeant, certes, mais cela ne doit pas nous amener à nous considérer comme des super-héros. Être des témoins, ce n'est pas être parfait, mais c'est, avec ses fragilités, ses erreurs, tendre vers ce qui est bien. Saint Paul dit, « C'est lorsque je suis faible que je suis fort. » L'éducateur est un témoin, c'est celui qui voit le Christ en l'autre, celui qui laisse transparaître le Christ.
Alors le Christ est à la fois la source à laquelle nous pouvons nous abreuver et le modèle auquel nous allons nous conformer. Écoutez bien la liste qui va suivre. Silence, sainte pauvreté, joie intérieure, obéissance, amour du prochain, humilité profonde, mortification, pureté d'intention, détachement, abandon sans réserve, zèle apostolique, travail, oubli de soi. C'est le nouveau programme de l'Éducation nationale. La ministre de l'Éducation est en l'occurrence Sainte Edith Stein, de nouveau. Toutes ces vertus pourraient être développées. On ne va pas le faire aujourd'hui, je vous rassure. Mais voyez simplement ce qu'elle suppose de renoncement, de petite mort à soi-même. Oui, l'éducateur doit se conformer au Christ. Il est appelé à devenir un autre Christ. L'éducateur est ce témoin qui doit vivre en premier le chemin qu'il propose. Et c'est par là seulement que nous pourrons transmettre quelque chose à nos enfants.
Le tout dans la joie et l'espérance. Le vigneron ne sait pas quel fruit portera sa vigne. En plus de ses compétences professionnelles, il doit donc lâcher prise, vivre l'abandon, être dans la paix. Marguerite Léna nous dit « On ne confie pas à des pessimistes, à des cœurs secs et sans enthousiasme, le développement du germe fragile et précieux d'une personnalité humaine, pas plus qu'on ne confiera à un sceptique la préparation d'une destinée éternelle. » Pour éduquer, pour donner la vie, il faut être dans l'espérance, se déposséder de ce que l'on est, de ce que l'on sait et l'adapter. Il faut donc espérer, se déposséder et transmettre dans la joie qui est conductrice du bien. Il existe une joie diffusive du bien. On ne transmet rien dans la tristesse. À nous de choisir la joie. Si un saint triste est un triste saint, un éducateur triste est un triste éducateur. Il faut être dans la joie en étant positif. Simone Veil nous dit que l'intelligence ne peut être menée que par la joie. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. La joie d'apprendre est aussi nécessaire aux études que la respiration au coureur. La joie est bien nécessaire à l'enfant et à l'éducateur. Si la joie est diffusive du bien, l'espérance est la motrice de l'éducation. Nous éduquons pour un monde inconnu des enfants inconnus. On ne saura jamais ce qu'on a semé. Enfin, combien est important le regard, le sourire, l'enthousiasme de l'éducateur. Parfois, on ne sourit pas pour avoir l'air plus sérieux. Mais le sourire vient de Dieu. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse pour nos élèves, pour nos enfants.
Alors, pour conclure, nous voudrions vous rappeler que vous tous, adultes qui êtes ici présents, soyez présents auprès de vos enfants, auprès des enfants que vous côtoyez. Dieu vous les a confiés. Chacun à votre mesure, vous êtes des artistes de l'éducation. Vous avez perçu en l'enfant la grandeur de l'homme, son appel à la sainteté, sa vocation profonde. Vous êtes co-créateur. Vous participez à l'œuvre de la grâce qui forme les hommes selon l'image du Christ, qui est la figure de l'humanité accomplie. Ce qui vous rapproche de Dieu, c'est votre foi en l'homme. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe chez tous les grands éducateurs. Ils y croient en et contre tout, en dépit bien souvent des apparences, comme Dieu.